Et merci pour vos prières et aussi merci pour les soutiens et les dons, parce qu'en effet, sans le soutien qu'apportent les uns les autres, on serait capable de ne rien faire du tout. Hein, c'est grâce à ce soutien financier, aux partenaires pour les scolaires, pour la maison et pour l'orphelinat. C'est grâce à ça qu'on peut opérer les choses. Hein. Donc on vous remercie de tout cœur pour tout ça. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble quelques instants ce matin. Je vous invite à ouvrir l'écriture dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Et nous allons donc prendre à partir du verset 1, Jean chapitre 1er, verset 1 à verset 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ce texte nous présente, je dirais, quelque part un contraste. On a à la fois la gloire de Dieu qui nous est manifestée dans les premiers versets, « Au commencement était Dieu ». On a cette grande puissance de Dieu qui opère la vie, qui transmet la lumière, qui crée le monde, qui soutient le monde. Et en même temps, on a cette grâce merveilleuse de ce Jésus qui nous est envoyé, lui-même, Dieu sur la terre, qui nous est envoyé afin que nous puissions croire en lui. Et la grande surprise de ce texte, on pourrait dire quelque part, c'est que ce grand Dieu, cette grande gloire, cette grande puissance a besoin, pour être cru, de témoins. Besoin d'un simple homme qui s'appelle ici pour le coup Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on sait très bien que nous sommes une foule de témoins. Mais cette grande puissance de Dieu, cette grande gloire, pour pouvoir toucher le cœur des hommes, elle a besoin de trouver des témoins. Et elle va trouver ce témoin ici dans l'Écriture, en la personne de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va donc rendre témoignage à la lumière, rendra témoignage clairement à Jésus-Christ. Je fais une parenthèse ici pour dire que notre Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus-Christ, va annoncer une parole d'une portée prophétique considérable. Il va dire, en voyant Jésus, il le dira à tous, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et cette parole, elle est vraiment extrêmement puissante, parce que quand on revient un petit peu dans l'Écriture, on se rend compte que Abraham, au moment où Dieu va lui demander d'offrir son fils unique, Isaac, eh bien son fils Isaac, sur le chemin d'ailleurs qui se situe à Golgotha, hein, en réalité c'est le même endroit là où Dieu a envoyé Abraham pour offrir son fils Isaac, c'est au même endroit où Jésus, plusieurs siècles plus tard, va donner sa vie. C'est intéressant. Mais alors que Isaac est en train de marcher avec Abraham, Isaac dit à son père, alors puisqu'il n'est pas conscient que c'est lui qui est censé donner sa vie ce jour-là, il va dire à son père, mais papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham dira à ce moment-là, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et ce jour-là, on a Abraham sur cette montagne qui s'apprête à offrir son fils Isaac, et alors Dieu va l'arrêter et Dieu va lui montrer un bélier. Et le bélier, c'est le papa de l'agneau, c'est pas la même chose. Et c'est ainsi que Abraham, de manière prophétique, dans le chapitre 22 de la Genèse, dira à la fin de la journée, non pas cette parole « à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu », parce que franchement, quand son fils est sauvé, c'est ce qu'on a envie de dire, mais il va dire une parole différente, et vous le retrouverez dans la Genèse, il va dire « à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu », annonçant par là même qu'un agneau, celui que Dieu allait se pourvoir de lui-même, eh bien, allait venir. Et Jean-Baptiste, plusieurs siècles plus tard, voyant Jésus, va dire « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qu'il a été prophétisé et annoncé du temps d'Abraham. » C'est quand même extraordinaire. Il va rendre témoignage au monde de cette vérité biblique attendue. Mais le grand contraste encore qu'on trouve dans ce texte-là, c'est que finalement, même avec un témoignage rendu fort par des Jean-Baptistes, il y en a eu dans le monde, il y en aura encore, malgré cela, nous avons cette triste parole, ce triste constat de l'Écriture, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Il y a établi ici par l'Écriture, je ne vais pas dire l'échec quelque part du témoignage, parce que le témoignage en lui-même n'est jamais un échec, mais il y a en tout cas établi très clairement le fait que la plus grande partie du monde ne reçoit pas le Créateur, ne reçoit pas celui qui est la vie, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. Et c'est catastrophique. Je trouve que c'est catastrophique. Je ne sais pas comment vous le percevez, comment vous le ressentez, mais tout est donné par Dieu. La création, le monde, la vie, la lumière et les hommes, pour la grande majorité d'entre eux, eh bien, passent à côté tout simplement, ne reçoivent pas le Seigneur. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais la grande nouvelle de ce matin, c'est que, et elle nous concerne, mais, nous dit l'Écriture, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et ce matin, le message, c'est un message de déclaration de ce que tu es. Toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, toi qui as reçu le Seigneur, qui as cru en cette lumière, qui crois en sa parole, eh bien, cette Bible, cette parole, elle atteste, elle déclare qu'elle fait de toi un enfant de Dieu à part entière. Amen. Alors ce matin, je vais te poser une simple question. Est-ce que tu crois au Seigneur? Si tu crois, je t'invite à lever ta main. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ça fait de toi un enfant de Dieu à 100%. Amen. Pas un enfant de Dieu de seconde zone ou un enfant de Dieu à naître. Tu es enfant de Dieu depuis le moment où tu as cru au Seigneur, depuis le moment où tu as confessé ta vie au Seigneur. À partir de ce moment-là, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, que les autres le disent ou qu'ils ne le disent pas, tu as été et tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Hein, c'est formidable, c'est formidable. Le mot ici, devenir, c'est un mot en grec qui veut dire tu as commencé à être enfant de Dieu. Et la suite du verset nous dit lesquels sont nés, pas lesquels sont à naître. Tout a été fait. À partir du moment où tu as reçu le Seigneur, tu as reçu cette identité spirituelle nouvelle en Christ d'enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la grande nouvelle ou le grand rappel peut-être pour certains d'entre nous de ce matin. Une fois qu'on a reçu cette identité, et le terme est très fort, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le terme ici qui est utilisé, c'est un terme qui est En grec, ça ne va rien vous dire, c'est le mot exousia, mais c'est un terme qui est employé, par exemple, dans Matthieu chapitre 28, Jésus s'étant approcha, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Exousia. Tu as reçu le exousia, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un autre endroit où on le trouve, Marc chapitre 13 dira, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il remet l'autorité à ses serviteurs, il remet l'exousia. Tu as reçu l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et puis un autre verset également qui nous donne ce troisième, je dirais, axe. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir l'exousia, à l'arbre de vie, le droit. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, que dans ton cœur, ce que ce matin il faut vraiment saisir par la foi dans la parole de Dieu, c'est qu'à partir du moment où tu as confessé le nom du Seigneur dans ta vie, que tu crois à cette parole, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité et tu as reçu le droit d'être enfant de Dieu. Qui peut te contester cela? Qui peut te contester cela? Personne. Et certainement pas toi-même. Parce que parfois, c'est peut-être en nous-mêmes que le combat se trouve. Se pose la question, parce que la vie que nous menons n'est pas toujours une vie glorieuse, il faut le reconnaître. Et alors, face à ces aléas peut-être de la vie chrétienne, la question se pose, suis-je bien un enfant de Dieu? Alors ce matin, clairement, tu as reçu le pouvoir, l'autorité et le droit d'être enfant de Dieu, de commencer à être un enfant de Dieu. Et c'est en cela qu'il est, je dirais, nécessaire, bien sûr, de marcher en tant qu'enfant de Dieu. On a ce magnifique verset dans l'Écriture qui va dire « Autrefois, vous étiez ténèbres, Éphésiens 5,8, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » En d'autres termes, le Seigneur nous dit « Deviens ce que tu es. » Tu es enfant de Dieu, deviens ce que tu es. Commence à saisir cette identité spirituelle et à marcher en conséquence de cette identité spirituelle. Et à partir de cette identité spirituelle en Christ, tu as toutes sortes de bénédictions qui s'ouvrent à toi. Alléluia. Il y a énormément de grâces qu'on trouve dans l'Écriture. Prenez le temps de lire Éphésiens, par exemple. Et puis vous allez voir tout ce qui est attaché à cette identité en Christ. Nous sommes, par exemple, les co-héritiers de Christ. Ce n'est pas rien. Le ciel est à toi. Le royaume de Dieu t'appartient. Il est à toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Parce que tu es enfant de Dieu. J'ai envie de dire, s'il y a bien une citoyenneté à laquelle on doit être attaché, c'est celle du ciel, frères et sœurs. Sur ta carte d'identité, que tu sois français ou haïtien, bon, ça compte sur la terre. Je préfère être français, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut voir les conditions là-bas. Mais entre être français et être citoyen du ciel, frères et sœurs, il n'y a pas photo. C'est mille fois meilleur que d'être enfant de Dieu, que d'être seulement français. Amen. Donc, tu as une identité, je dirais, une golden card, tu as le top du top. Il ne faut surtout pas passer à côté de ça. Parce que est attaché à ça énormément de grâce et énormément de bénédictions, non seulement pour le temps présent, mais aussi pour le temps à venir. Alléluia. Et cette identité-là, nous l'avons reçue parce que Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Et j'aimerais ici peut-être souligner quelque chose et insister sur un point particulier, sur le fait que nous devons sortir les uns et les autres de l'accusation. Nous devons sortir de la culpabilité qui peut peut-être encore parfois être là dans nos cœurs. ces fameuses questions intérieures ou ces injonctions qu'on peut entendre. Tu dis que tu es chrétien, et pourtant ceci et pourtant cela. Vous avez tous entendu ça ? Il faut sortir de ça à un moment donné. Bien sûr, dans l'obéissance, on avance, on se libère de ces problèmes-là, mais même, j'ai envie de dire, quand on n'est pas dans la totale obéissance, le statut que nous avons en Christ nous permet de trouver la paix, nous permet de progresser comme Dieu le désire. Il faut sortir de l'accusation. Et pour sortir de l'accusation, il faut comprendre ce qui s'est passé vraiment à la croix. Et on va prendre ce texte dans Colossiens chapitre 2, où on y trouve ceci. Ça nous parle quelque part de la puissance de la croix contre le diable et ses démons. « Vous qui étiez morts, nous dit cette parole, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Écoutez bien ici. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Et on va ensuite lire dans la foulée Apocalypse chapitre 12, qui nous explique ce qui s'est passé aussi avec cette œuvre de Jésus. « J'entendis au verset 10, dans le ciel, une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. » On a Jésus, au moment où il est à Gethsémané, il va dire que c'est l'heure des ténèbres, et il va aussi rajouter que le diable va être jeté dehors. Il va être jeté dehors. Et juste après, Jésus va donner sa vie sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? À la croix, on l'a lu ici, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été détruit. Cet acte-là, c'est quoi ? Cet acte-là, c'est un document, on pourrait le dire comme ça, symboliquement. C'est un document qui se tenait dans les mains du malin, dans les mains du diable. C'était ma vie, c'était ta vie dans le détail, avec premier péché, deuxième péché, troisième péché selon l'Écriture. Et la Bible me dit que Satan nous accusait jour et nuit devant Dieu, c'est-à-dire qu'il se trouvait dans le ciel, en présence de l'Éternel, comme il fera avec Job. Il vient vers Dieu, il vient avec les ordonnances, l'acte, et toi, Éternel, tu ne peux pas être en relation avec celui-ci ou avec celle-là, parce que celui-là et celle-ci, il a fait ça, 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 et selon les ordonnances de la parole de Dieu, tu ne peux pas être en relation avec eux. Et Dieu était bien embêté avec cette affaire-là. Parce que c'était vrai. C'était vrai. Nos fautes étaient réelles, nos offenses étaient réelles, le poids de nos offenses, de toutes les manières sans Christ, était là, et Dieu était vraiment bien embêté avec cette affaire-là. Vous savez, c'est comme quand on a un enfant qui fait n'importe quoi. On est bien embêté avec ça, souvent. C'était pareil. Le Père Céleste était bien embêté avec ces histoires-là. Nous aimant, mais en même temps, pris en difficulté à cause de nos propres péchés, et la relation était brisée. Maintenant, le Père Céleste, il envoie le Christ. Alléluia. Le Christ, il porte sur la croix nos péchés. Et il cloue, et c'est écrit ici, il cloue ces fameux actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été cloués à la croix, en Christ. Amen. Et c'est en cela, frères et sœurs, que la Bible dira que le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités. Parce que ces actes qui étaient dans les mains de l'adversaire, qui pouvaient nous accuser, ont été pris par Jésus-Christ, enlevés des mains et posés sur la croix. Ça veut dire que le diable, ensuite, pour se présenter devant Dieu, il vient vers Dieu, mais cette fois-ci, frères et sœurs, il n'a plus rien dans les mains pour les accuser jour et nuit. C'est terminé. Et à partir du moment où il vient devant Dieu et qu'il n'a rien dans les mains, qu'est-ce qui se passe? Tu dégages. Et c'est en ça que la Bible dit bien que Satan a été précipité. C'est-à-dire qu'il a perdu une position spirituelle qui était forte contre nous, parce qu'à la croix, les actes qui lui permettaient de se tenir en présence de Dieu pour nous accuser, ça a été envolé. Et à partir du moment où ça a été envolé, il a été, comme dit la Bible, jeté dehors. Il a perdu sa position spirituelle, qui était une position dans le ciel. Et il a été précipité sur la terre. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Mais c'est mieux d'avoir un diable qui est précipité sur la terre qu'un diable qui trône dans le ciel. Amen. Et grâce à Christ, tout ça, ça nous a été donné pour nous. Et c'est pour ça que nous ne devons pas, frères et sœurs, céder à quelque accusation que ce soit. Qui accusera les élus de Dieu, nous dit la parole. Parce que les éléments qui ont été commis dans nos vies ont été pourvus, payés à la croix du calvaire. Et ça, ça nous donne une pleine et une entière victoire. La Bible dira bien, et on l'a lu dans Colossiens, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle. Alors évidemment, le public de ce dépouillement, ce n'était pas un public d'hommes et de femmes, hein, frères et sœurs. Parce qu'au moment de la croix, il faut reconnaître que personne n'y a rien compris. Jésus était là en souffrance. Il fait un truc un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça. Le regard primaire de l'homme y voit une défaite, alors qu'en fait c'est une immense victoire. Et sur la terre, quand Jésus est mort, on n'a pas eu les hommes qui sont mis à applaudir. « Ouais, super, t'as dépouillé le diable de tout son pouvoir. » Il n'y a presque aucun homme qui a vu ça. Par contre, dans le ciel, je peux vous dire que ça s'est vu. Hein. Les anges, les autorités célestes, elles ont vu ce qui s'est passé dans le ciel. Elles ont vu que les documents qui se levaient contre nous ont été retirés de la main du diable. Et elles ont vu qu'il s'est retrouvé sans pouvoir. Il a été livré, à tes souhaits, il a été livré publiquement, en spectacle. Le public, frères et sœurs, c'était le monde céleste qui a vu le diable tomber du ciel, qui a vu le diable perdre ses atouts et se retrouver sur la terre. Amen. Alors tout ça, je le dis ce matin, de sorte qu'au fond de ton cœur, tu comprennes ce que Christ a fait pour toi, et que tu décides au fond de toi de quitter la culpabilité. Amen. Et de marcher aussi en nouveauté de vie. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, hein, de marcher en nouveauté de vie. Plus tu vas être dans l'obéissance, et plus tu vas trouver de la paix dans ton cœur. Amen. Maintenant, il faut aussi quand même souligner que parfois, il y a des gens, ils sont obéissants au Seigneur, mais ils sont plus royalistes que le roi. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'exigences sur leur vie et souvent sur la vie des autres que ce que le Seigneur lui-même pourrait avoir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'on appelle le légalisme. C'est-à-dire que c'est jamais assez. Et la parole de Dieu en parle à plusieurs reprises. Ne touche pas, ne goûte pas, fais ceci, ne fais pas cela, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis à la fin, tu te retrouves, t'es en saucissonné, et tu ne sais plus quel type de vie il faut vivre. Ça, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la liberté en Christ. Pas la liberté de faire le mal, mais la liberté de faire le bien et la liberté de ne pas faire le mal. Et c'est aussi le discernement spirituel qui te permet de savoir ce qui est vraiment des commandements de Dieu, de ce qui pourrait aussi être des commandements des hommes. Vous savez, un des grands problèmes des pharisiens, c'était de rajouter des commandements aux commandements de Dieu. Et ça compliquait la vie des gens. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a ce côté charnel qui fait que plus on en prend plein la poire, et plus parfois on est rassuré. Plus on a de commandements, plus on a de règles, et plus on a l'impression qu'on est dans la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est en ça que le légalisme, et que je rajouterai que l'islam radical, au passage, a du pouvoir. Parce que là où il y a des règles abusives, il y a toujours des gens pour les pratiquer parce que ça les rassure. Mais c'est charnel. C'est pas de Dieu. C'est charnel. Et c'est en ça que le Seigneur nous appelle à un discernement. Alléluia. Donc la marche chrétienne, c'est une marche qui conduit dans la liberté, d'obéir à Dieu, dans la sainteté, mais pas dans les excès. Et des excès, frères et sœurs, il y en a encore aujourd'hui. Méfie-toi quand on te demande de faire de telle chose, parce que si tu ne fais pas ça, alors c'est pas bien, tu iras en enfer. Moi, quand j'entends des gens qui disent ça, je me dis, mais ils prennent le sang de Christ, pourquoi ? Pour quelle valeur ? Parce que si ton éternité dépend de ton obéissance à des règles un petit peu bébêtes, c'est que le sang de Christ n'a pas beaucoup de valeur. Or, le sang de Christ a une valeur absolue pour toi. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide dans ce sens. Alléluia. Pour terminer, ici, la puissance de la croix, on en parlera peut-être une prochaine fois parce que le temps passe. On a parlé de Pâques, hein, de la mort de Christ, de la résurrection de Christ. Et la Bible va attester clairement qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nous aussi morts avec Christ. Nous avons aussi été crucifiés, le vieil homme l'a été. Et nous sommes aussi, et c'est du passé, frères et sœurs, nous sommes aussi ressuscités avec Christ. La Pâque, la mort de Jésus et sa résurrection, elle concerne bien sûr la personne du Christ, mais elle nous concerne aussi très directement. Parce que en Christ, nous avons aussi vécu ces choses-là. Le vieil homme, dans nos êtres, a été détruit. Alléluia. Ce qui fait que le péché, normalement, n'a plus de prise sur nous. Je dis bien normalement. Et là, on a, en tant qu'enfant de Dieu, on a un énorme boulevard qui nous est offert, une énorme bénédiction qui coule de la croix pour pouvoir faire en sorte que nous soyons comme Christ mort, et comme Christ aussi ressuscité, entrant dans une vie nouvelle. Amen. Je ne sais pas si tu as besoin d'une vie nouvelle. Est-ce que tu as besoin d'une vie nouvelle ? Voilà. Cette vie nouvelle, elle se trouve en Christ, par le biais de la croix. Amen. Et déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à tout ça. Alors, j'ai envie de dire, profites-en, appuie sur l'accélérateur. Amen. Appuie sur l'accélérateur dans ta vie spirituelle. Appuie sur l'accélérateur. Mange des choses de Dieu. Nourris-toi des choses de Dieu. Grandis dans les choses de Dieu. Et tu vas voir que cette vie de Dieu va commencer à être abondante dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Alors, passe la 1, passe la 2, la 3, la 4, la 5. Va à 120, 130, enfin 80 sur les routes départementales bientôt. Mais avance, amen, avance dans ton identité. Merci Seigneur, amen. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur d'encourager ce matin ton peuple. Et Seigneur, de retirer, Seigneur, toute culpabilité, toute accusation ou toute oppression, Seigneur. Et nous savons que le diable, même si on n'a pas le droit, il tentera son coup, Seigneur, d'accuser. Mais Seigneur, ces accusations-là, nous les réfutons. Parce que Seigneur, tu as donné ta vie, parce qu'il n'a plus rien dans ses mains, parce que Seigneur, nous avons été lavés, pardonnés et réconciliés avec toi par la croix. Père éternel, sois béni, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Amen.
Seigneur, je te loue et je te bénis pour ta parole. Je te loue, Seigneur, pour cette parole où tu as dit, Seigneur, dans l'évangile de Jean, que la lumière est venue chez les siens et qu'ils ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous allons prendre la Sainte Cène, la communion, Et quelquefois, certains se demandent finalement quelle est la signification de la communion. Connaissant tous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et le monde, c'est le monde. Et quelquefois, il y a des gens qui disent, le monde, d'accord, mais moi. Dans la Bible, on voit un homme dont le nom était Zachée. Il voulait s'approcher de Jésus. Il y avait de la foule, puis il était petit. Alors, il est monté sur un arbre. Et Jésus l'a vu. Il lui dit, Zachée, descends. Je vais prendre le repas chez toi. Et c'est ce que Jésus dit aussi à tous ceux qui se posent une question. Tu es mort pour le monde, Seigneur, mais moi, est-ce que tu me connais? Alors le Seigneur te dit à toi, oui, descends de ton arbre et viens. Nous avons besoin quelquefois de quelque chose de concret. Et comprenons que c'est Jésus lui-même qui nous invite à venir à la table. Il nous donne un petit quelque chose pour que nous, en tant que personnes, sortent la réalité de l'amour de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Souviens-toi que Jésus est mort, pas simplement pour le monde, un monde abstrait, mais il est mort pour toi. Et je t'invite à venir pour que je te donne un morceau de pain, pour que je te donne une goutte de vin, pour que tu saches que l'amour de Dieu est pour toi. Et pas que pour toi, c'est vrai, il est pour tous ceux qui ont cru en lui, mais il est pour toi. Tu n'es pas un numéro, tu es quelqu'un que le Seigneur aime, tu es quelqu'un que le Seigneur veut bénir, tu es quelqu'un que le Seigneur veut relever, veut consoler si tu es dans la peine, veut guérir si tu es malade. Il est quelqu'un qui veut te prendre l'espoir.
Dans la nuit où il a été livré, après avoir rendu grâce, le Seigneur prit du pain. Il l'a rompu et dit, « Ceci est mon corps, brisé pour vous. » Je dirais, c'est mon corps qui a été brisé pour toi. Pas simplement pour le monde en général, mais aussi pour chacun de ceux qui ont cru. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous mangez de ce pain, chaque fois que vous buvez le contenu de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je te loue et je te bénis, parce que la lumière est venue chez les siens. La plupart ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, et nous en faisons partie. Tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que tu ne me proposes pas ce pain et ce vin parce que je suis meilleur qu'un autre. Tu me proposes ce pain et ce vin parce que tu m'as aimé. Je te prie, Seigneur, pour que nous ne compliquions pas les choses, pour que nous répondions simplement à ton appel et à ton amour. Voici, dit Seigneur, je viens pour que tu aies la vie. Je viens pour que tu l'aies en abondance. J'ai payé pour toi le prix. Viens, je t'invite à la table du roi. Venez. Peut venir à la table, même si vous ne voulez pas prendre la scène pour une raison ou pour une autre, vous laissez passer de place, tout, c'est pas un problème. Mais en tout cas, c'est de bon cœur. Vous savez, les dominations, ça ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu. Hein, il a été dit tout à l'heure qu'à la croix, il a livré les autorités, les dominations, les livres publiquement. Il a livré publiquement toutes les accusations du diable hein, qui font que nous ne sommes pas frères et sœurs alors que nous devrions l'être. J'arrive, tu veux venir, s'il te plaît ? Isabelle, recevons ce pain. Ce pain avec vous. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a du vin dans la.
Dans la coupe, il y a du vin. Dans la coupe, et là, c'est du jus de raisin.
Sacrifié pour moi.
Seigneur, parce que tu me les as donnés. Seigneur, je te prie, Seigneur, comme tu as toi-même prié le Père. Père, je te prie pour qu'ils soient un, pour qu'ils soient parfaitement un, afin que leur joie soit complète, soit parfaite. Donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-leur d'être à la hauteur de la vocation que tu leur as donnée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que nous répondions à cette vocation et que nous soyons partout, Seigneur, remplis de l'amour de Dieu, pour parler d'un Dieu si magnifique et si beau, qui a donné son propre Fils pour que nous ayons la vie. Bon dimanche à tous.
Je rappelle qu'il y a des flyers, si vous voulez, pour les adresses, le jour. Je vais les mettre là-bas. Et il y a aussi une affiche. Merci.
Manger d'ailleurs.